France Culture.
France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
A dit le nombre de consultations au centre de santé sexuelle, dans un cadre de violence, avait doublé l'année avant la fermeture. Celui pour médiation conjugale, autrement dit pour la prévention des violences, avait quadruplé. On dit à ces personnes qui cherchent de l'aide, débrouillez-vous.
Alors moi, je ne vais pas parler de fermeture, je vais parler de réorganisation. Le département, et j'insiste, ne se désengage pas en matière de santé sexuelle. Des consultations existent sur tous les territoires. On n'en a délaissé aucun.
Si on ne fait pas cette prévention, on se retrouve à faire de la réparation et le coût pour la société est beaucoup plus important.
Le droit à l'avortement inscrit dans la Constitution est-il menacé en France? C'est en tout cas la crainte exprimée par le planning familial. L'association qui informe sur la contraception, la sexualité et l'interruption volontaire de grossesse se voit retirer des agréments et couper des subventions à un niveau sans précédent. Le planning se dit en danger. Il n'est pas le seul à s'inquiéter. Depuis le début de 2025, les alertes se multiplient selon la Fondation des Femmes. Elle constate les difficultés récurrentes des associations féministes à trouver les moyens nécessaires à leurs actions. Et dans une enquête publiée en août dernier qui pointe l'impact des restrictions budgétaires sur l'accompagnement des femmes victimes de violences, la Fondation montre du doigt le département de la Drôme. Le 14 avril dernier, le Conseil départemental a en effet voté la fermeture des 7 centres de santé sexuelle dont il avait la gestion directe, tandis que les 11 autres CSS, gérés par des hôpitaux ou par le planning familial, voyaient leurs subventions baisser de 20%. L'opposition du centre et de gauche a aussitôt dénoncé des économies de bout de chandelle très malvenues dans des déserts médicaux. Mais les manifestations, pétitions, protestations d'élus et de professionnels de santé n'ont pas eu d'effet. Alors au quotidien, quel est l'effet réel de ces fermetures? Qui fréquentait ces centres de santé sexuelle installés en zone rurale? Quelle écoute, quelle réponse pouvait-on y trouver? Et vers qui se tourner désormais en cas de conflit conjugal, de questions sur son identité sexuelle ou de grossesse non désirée? Centre de santé sexuelle, la Drôme en état de manque, c'est un reportage signé Olivier Denray. Bonjour Olivier.
Bonjour Aurélie.
Vous vous êtes rendu dans la Drôme 9 mois après la décision du Conseil départemental pour mesurer l'impact de ces fermetures de CSS.
Oui, un impact évidemment difficile à quantifier. Les professionnels de santé que j'ai rencontrés sur le terrain, les militants associatifs, les élus, personne ne dispose pour l'instant de chiffres solides pour contester ces décisions politiques de fermeture. Comment évaluer en effet le manque en matière d'éducation sexuelle et affective chez les plus jeunes? Comment savoir combien de jeunes filles et de femmes ont finalement renoncé à une IVG faute d'avoir trouvé un lieu anonyme et gratuit pour bénéficier d'un accompagnement digne de ce nom? Comment mesurer enfin le défaut d'écoute et de prise en compte de la parole des victimes de violences conjugales? Chiffrer le renoncement, appréhender sous forme de statistiques l'absence de prévention, c'est presque mission impossible, sauf à se donner du temps, beaucoup de temps pour cela. En région Auvergne-Rhône-Alpes, depuis quelques semaines maintenant, l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, et les associations regroupées au sein de la Fédération Nationale Solidarité Femmes travaillent main dans la main pour essayer justement de mesurer les conséquences de ces fermetures sur le terrain. La recherche scientifique se donne ainsi les moyens d'une enquête au long cours. Elle se met au service en quelque sorte de la santé sexuelle, parents pauvres des politiques publiques, malgré les injonctions et les promesses devant les micros et les caméras d'en faire davantage en la matière.
La sociologue Nathalie Bajos est l'invitée de ce grand reportage. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez sur les inégalités de santé dans le champ de la sexualité et de la santé sexuelle. Vous êtes directrice de recherche à l'INSERM et vous présidez le Conseil national du sida et des hépatites virales. On en reparlera tout à l'heure. Avant de vous donner la parole, je vous laisse écouter le reportage d'Olivier. Il commence à Cray, à 25 km de Valence, avec l'intervention sur scène d'Estelle Tarot, venue donner ce qu'elle appelle une conférence gesticulée.
Je m'appelle Lucie, j'ai 29 ans, j'ai 2 enfants. Je m'appelle Martine, j'ai 64 ans. Je m'appelle Lison, j'ai 23 ans. Je suis étudiante, retraitée, institutrice, ouvrière, intérimaire, artiste. Je suis fiancée, je suis paxée, séparée, divorcée. Je m'appelle Estelle, j'ai 59 ans, 5 enfants, 4 petits-enfants. J'ai été mariée pendant 34 ans au père de mes enfants. Aujourd'hui, je suis veuve. Le 6 octobre 2023, à Pierre-Bénite, dans la banlieue de Lyon, Yasmina a été poignardée par son compagnon, devant ses enfants. Le 6 octobre 2023, le même jour donc, j'ai été frappée, poignardée par mon mari. Mais j'ai eu plus de chance que Yasmina. Le lendemain, quand je me suis réveillée à l'hôpital, j'ai assez vite su ce que je devais faire. J'ai assez vite su pourquoi j'étais vivante, ce que la vie me demandait de parler. Pour toutes celles qui ne peuvent plus le faire, pour toutes celles qui ne savent pas comment le faire ou qui ont peur de le faire.
Pendant un peu plus d'une heure et demie, Estelle Tarot déroule le fil de sa vie. Elle parle et gesticule devant plus d'une centaine de personnes réunies dans la grande salle du Centre communal d'action sociale de la ville de Crest. Invitée par l'association Réseau Femmes à l'abri du département de la Drôme, cette céramiste de profession décortique sur scène l'emprise dont elle a été victime jusqu'au jour où son mari a tenté de la tuer. Elle dénonce toutes les formes de violence conjugale, le patriarcat, mais aussi le manque de prévention à destination des plus jeunes notamment.
Je n'ai pas choisi ce que j'ai vécu, mais je choisis ce que j'en fais. Je vous remercie pour votre écoute. J'ai mis un petit carnet à l'entrée sur lequel je recueille volontiers vos réactions, vos messages, vos questionnements, vos encouragements. Moi, ça m'aide. Voilà. Merci.
Quand on termine cette conférence gesticulée que vous venez de donner pendant une heure et demie, on est dans quel état ?
On a l'impression d'avoir tout donné et en même temps, on a l'impression d'avoir beaucoup reçu. Et les personnes qui viennent me voir à la fin ou me prendre dans les bras et que des fois je ne connais pas, je sens que ça touche chez elles quelque chose de très intime. Et là, il y en a une qui m'a dit « mais continuez, continuez ». Je sens qu'il n'y a pas beaucoup d'espace de parole pour ces histoires-là et qu'en fait, on en a vraiment besoin. Et quand je dis que les choses, elles passent par la parole, c'est à tout niveau. C'est au niveau individuel comme au niveau collectif ou institutionnel. Donc voilà, moi j'ouvre un espace de parole. Je me dis que c'est tellement nécessaire que ça me donne la force de continuer en fait.
Vous ouvrez un espace de parole dans un territoire, dans un département, la Drôme, qui il y a 9 mois a pris la décision politique de fermer 7 centres de santé sexuelle.
Alors moi ça m'a mise en colère parce que je trouve qu'il y a une antinomie entre le discours où on dit qu'on veut prendre soin de cette question des violences faites aux femmes et en même temps dans la pratique on fait le contraire de ce qu'il faudrait faire et après si on fait pas cette prévention on se retrouve à faire de la réparation et le coût pour la société est beaucoup plus important donc je trouve que c'est une hérésie de fermer ces espaces là d'accueil, de parole donc d'avoir des lieux plus neutres qui sortent de la famille ou de l'entourage pour moi c'est vraiment nécessaire et je trouve ça très regrettable que on ne les garde pas.
A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, nos desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente.
Le 14 avril 2025, le conseil départemental de la Drôme, piloté par la droite, décide effectivement de fermer les 7 centres de santé sexuelle qu'il gère directement, parmi eux, celui de Pierre Latte. Mathilde, c'est un prénom d'emprunt, était l'une des bénéficiaires de ce centre. Victime de violences conjugales, elle avait fini par quitter le foyer familial pour échapper à un quotidien de plus en plus invivable avec son conjoint.
Quand j'ai voulu partir, le livret de famille, tout était planqué, j'ai rien trouvé. Il a tout gardé, hein, la maison, l'héritage de mes parents, tout. Il avait des sociétés qu'il avait avant qu'on soit ensemble. Et en fait, je ne savais pas, mais il avait déclaré les sociétés aussi à mon nom. Donc quand je suis partie pendant 2 ans, ben, j'avais le droit à aucune aide. Parce que j'avais des sociétés et que les impôts, la CAF, tout ça remonte sur 2 ans. Donc il me disait, de toute façon, tu reviendras, parce que tu vas faire comment? Ouais, ben, je vous débrouillerai. J'ai rien récupéré.
Vous êtes partie sans rien, en fait.
Un sac d'habits pour moi, un sac d'habits pour le petit, un sac de jeux pour le petit, et puis voilà. Et je me suis retrouvée, oui, bah les associations étaient déjà surchargées. Donc j'ai cherché, moi, un appartement, j'ai cherché, moi, un lieu où aller. Et après, bah, y avait centre de santé sexuelle, ou des choses comme ça, pour des rendez-vous, des entretiens, des échanges. Je cherchais quelqu'un pour me conseiller. Donc, du coup, à l'accueil, il m'avait proposé de rencontrer donc, une conseillère de santé sexuelle pour voir avec elle. Et aussi parce que par rapport à la séparation avec le père du petit, c'était assez compliqué. J'étais perdue dans le sens où je ne savais pas ce que j'avais le droit de faire, pas le droit de faire, les obligations, les...
Par rapport à votre enfant, c'est ça ?
C'est exactement. Par rapport au petit, surtout que il a toujours l'emprise, en fait, mon ancien compagnon, par rapport à ça, et il en joue. Par exemple, la première fois qu'il est venu récupérer, il a insisté pour rentrer à la maison et voir comment était la maison. En me disant, de toute façon, t'as pas le choix, c'est mon fils, j'ai le droit de voir où il vit, j'ai le droit de voir comment c'est, tu me laisses rentrer. Donc voilà, donc ça, bah, on se retrouve à se dire, mince, est-ce que j'ai le droit de refuser ? Est-ce que je suis obligée de le laisser rentrer ? Est-ce que... Il m'a menacé, il m'a dit, de toute façon, si tu me laisses pas rentrer, t'auras à recommander de mon avocate, tu vas voir. Donc effectivement, j'avais plein de questions comme ça. Est-ce que j'ai le droit de refuser ? Quelles sont mes obligations et quelles sont... ses obligations aussi à lui.
Et là-dessus, vous avez eu les réponses à vos questions ?
Oui, j'ai trouvé les réponses à mes questions, parce qu'effectivement, au niveau des avocates, bah, c'est toujours compliqué de les avoir, c'est toujours compliqué, et puis ils ne sont pas toujours disponibles au moment où on en a besoin. Ce genre de choses, forcément, ça arrive souvent le week-end ou le soir. Hein. Donc là, on a vraiment quelqu'un qu'on voit régulièrement.
C'était quel rythme, vos rencontres ?
À peu près une fois tous les 15 jours.
Avec la possibilité, éventuellement, si besoin, de l'avoir au téléphone ?
Au téléphone ou par mail, oui. On échangeait dès que j'avais besoin, dès que j'avais des questions, effectivement, était disponible. Puis j'ai continué à l'avoir, pour que ce soit un soutien psychologique, parce que j'avais des projets aussi pour faire de la prévention concernant les violences conjugales. J'avais vraiment envie de, pas de raconter mon histoire, mais plus de prévenir de comment ça se met en place, comment ça se passe, comment les petits signes, les petits détails qu'on voit pas, mais qu'une fois qu'on en a entendu parler, on les reconnaît. Et parce que j'ai vraiment regretté de ne pas avoir été au courant de ça avant. Et je pense que ça m'aurait aidé. Du coup, cette conseillère m'a vraiment accompagnée dans ces démarches. On avait quelques projets, on va dire, mais voilà, c'est tombé à l'eau suite à la fermeture.
Depuis que le centre a fermé, depuis le mois de juillet dernier, là, le centre est définitivement fermé sur Pierre-Latte, vous faites comment ?
Ah bah déjà, les projets sont tombés à l'eau. Ça, c'est clair. Et puis, maintenant, j'ai des questions encore là pour les prochaines vacances. J'ai des questions par rapport au petit, à la garde du petit, parce qu'on n'est pas d'accord sur les dates avec le papa. L'avocat répond pas. Il n'y a plus de contact. Il y a le CIDFF qui fait une permanence. C'est un centre d'information sur les violences faites aux femmes. Mais par rapport à mon planning, par rapport à mes horaires, ça ne correspond pas. Et après, l'autre centre est à Valence. Et Valence de journée, ben, moi, ça veut dire poser une demi-journée pour pouvoir y aller, ce qui n'est pas possible. Il n'y a plus, ben, il n'y a plus d'interlocuteur, il n'y a plus d'aide, de conseil et d'accompagnement. Il n'y a rien qui a été mis en place, de toute façon, pour remplacer tout ça. Je veux dire, quand le centre a fermé, ils nous ont clairement dit on n'a même pas un numéro ou une adresse mail à vous communiquer. Mais c'est surtout, voilà, quand on a des questions précises ou autres, on est seul.
La fermeture des 7 centres de santé sexuelle gérés par le département de la Drôme s'accompagne également d'une baisse des subventions de 20% allouées au planning familial. Clémence Macaluso est l'une des coordinatrices régionales de cette association militante et féministe, association qui administre elle aussi des CSS à Valence, à Dieulfi et à Nyons notamment. Elle souligne le rôle essentiel des conseillères conjugales et familiales. La lutte contre les violences faites aux femmes n'est d'ailleurs pas leur seule mission.
Nous, on est des spécialistes, c'est-à-dire que pour être conseillère conjugale et familiale, donc c'est les personnes qui vont pouvoir faire des animations et aussi faire des entretiens individuels. Ces personnes-là, elles sont formées de 480 heures, donc c'est énorme.
Ces formations, elles consistent en quoi ?
Alors, on va comprendre les cycles de la violence qu'il peut avoir dans un couple ou dans d'autres relations. On apprend aussi à accueillir la parole des personnes qui ont subi ces violences-là. Elle est dure à entendre aussi. Ça peut aussi jouer chez soi des choses très compliquées. On nous apprend aussi quels sont les autres partenaires vers qui on peut réorienter les personnes. Et ensuite, donc il y a pas mal de théories sur connaître toutes les contraceptions, comment elles fonctionnent, quels sont leurs cadres réglementaires. Pareil pour les IVG, les interruptions volontaires de grossesse, les IST, les connaître toutes, connaître le temps de dépistage, combien de temps entre un rapport sexuel non protégé et le dépistage, il faut pour que vraiment le dépistage soit effectif. On fait, outre ce bagage théorique, on a aussi On apprend à questionner ses propres représentations. Donc comment on peut avoir des préjugés sur toutes ces thématiques-là, apprendre à les déconstruire et surtout à avoir une posture qui soit non moralisante, qui ne soit pas jugeante, et surtout d'avoir une approche d'éducation populaire. On va partir de l'expérience de chacun, chacune, et ensemble, on va apprendre des uns et des autres, et questionner ensemble les représentations de tout le monde.
En janvier 2024, Pierre Guyet-Esson est recruté par le département pour occuper le poste de conseiller conjugal et familial dans le centre de santé sexuelle d'Autrive. Situé dans la Drôme des Collines, un territoire rural, ce CSS n'a à l'époque pas de bons résultats. Pierre Guyet-Esson reprend donc contact avec tous les professionnels de santé et les partenaires. Et assez rapidement, il enchaîne les rendez-vous avec des bénéficiaires. 156 personnes la première année sont suivies régulièrement. Quand le centre de santé sexuelle ferme officiellement ses portes le 30 juin 2025, il estime que son activité a augmenté de 10%. Aujourd'hui, ce conseiller conjugal et familial travaille à l'hôpital de Romans-sur-Isère. Il a perdu le lien avec la plupart des femmes et des hommes qu'il rencontrait à Autrive.
Les personnes que je continuais à accompagner, il y en avait une douzaine. Les accompagnements ont perduré après le 30 juin et donc ces accompagnements-là se faisaient sur les centres de santé sexuelle des hôpitaux Drôme Nord. Et aujourd'hui, sur les 12 personnes, j'en ai plus que 6, donc 5 femmes et un homme.
Les 6 autres, qu'est-ce qu'ils sont devenus ?
Eh bien, les 6 autres, progressivement, en fait, le lien s'est distendu. J'ai pu continuer par téléphone ou en visio. Et il y en a pour certaines que j'ai orientées sur d'autres départements, le département de l'Isère ou de l'Ardèche ou du Rhône, et du coup qui ont pu continuer les accompagnements avec d'autres professionnels, mais sur d'autres départements que celui du département de la Drôme.
Pour des raisons de proximité, de mobilité essentiellement.
Exactement, de mobilité, de proximité, avec des personnes qui ne sont pas véhiculées, qui n'ont pas forcément le permis ou qui ont des voitures sans permis ou des deux roues, et du coup pour lesquelles c'est compliqué, où il n'existe pas de transport commun, bus régulier, qui permettent facilement de se déplacer sur les agglomérations que sont Romans, Valence ou Montélimar, avec un coût aussi financier, un coût humain qui est important.
Perdre la moitié des bénéficiaires que vous suivez, c'est quoi ? C'est un crève-cœur pour un professionnel comme vous ? C'est un échec ? C'est quoi ?
J'étais parti sur le fait que les valeurs qui étaient mises en avant par le département de solidarité, de proximité, étaient des valeurs qui me correspondaient. Et du coup, cette fermeture, et dans les conditions dont elle s'est faite, c'est-à-dire sans échange, sans discussion, sans compromis, sans négociation, sur des chiffres faussés, sur des données erronées, c'est de la déception et puis...
Et de la trahison.
Une sorte de trahison, oui, tout à fait. Parce que ces élus, s'ils avaient regardé à un moment donné, s'ils connaissaient un peu ce qu'étaient les conseillères conjugales et familiales et les conseillers conjugaux familiaux, ils auraient vu qu'une partie de nos missions, c'est de aussi faire remonter les besoins du territoire. Ça fait partie de nos missions, ça fait partie du référentiel et de l'arrêté qui encadre notre profession. Et je pense qu'ils seraient intervenus d'une manière différente et ils auraient pris en compte nos points de vue, notre regard et ce qu'on pouvait faire remonter sur les besoins de ces territoires ruraux du département de la Drôme.
Allez, on prend l'ascenseur. À Valence, rendez-vous est pris avec Linda Adjari.
Vous allez au 3 ?
Au 3e, oui. Bonjour.
Vous allez bien ?
Enchantée, vous êtes ?
Linda Adjari. Donc, je suis en charge, donc en tant que vice-présidente, de l'accès aux soins, de la santé, de la parentalité.
Cette conseillère départementale de droite est l'une des femmes qui a porté ce dossier de fermeture des centres de santé sexuelle. Elle nous reçoit dans son bureau, au 3e étage de l'hôtel du département, situé juste à côté de la préfecture.
Alors moi, je ne vais pas parler de fermeture, je vais parler de réorganisation, parce que le sujet, il est là. Le département, historiquement, a la compétence des centres de santé sexuelle, mais ne l'a pas pleinement. C'est une compétence que nous partageons avec l'ARS, l'ACPM et l'Éducation nationale.
L'ARS est l'Agence régionale de santé. L'ACPM, c'est la caisse primaire d'assurance maladie.
Tout à fait, et l'Éducation nationale. Donc on est parti d'un constat où nous gérions cette compétence de deux manières. De manière directe, avec 7 centres de santé sexuelle gérés en direct. Mais ce ne sont pas des maisons pures et simples, hein. Ce sont des bureaux au sein de nos centres médico-sociaux. Et puis, on avait aussi cette gestion indirecte, où on donnait délégation et on finançait nos partenaires, qui sont les hôpitaux, ainsi que le planning familial. Donc aujourd'hui, la loi nous impose l'organisation de 16 demi-journées de consultation de planification familiale par semaine pour 100 000 habitants âgés de 15 à 50 ans. Donc cela implique 33 demi-journées hebdomadaires, dont 8 prénatales. Donc en Drôme, aujourd'hui, nous finançons plus de 50% que ce que nous impose le cadre légal. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes confrontés, comme beaucoup de collectivités, à des difficultés financières. On se retrouve avec un effet ciseau où nous avons des dépenses qui sont en constante augmentation avec le vieillissement de la population, de plus en plus de personnes qui sont porteuses de handicap, etc., etc., et des recettes qui sont en baisse. Donc nous sommes contraints, effectivement, d'avoir une gestion de nos budgets responsable et de faire des choix.
Combien est-ce que vous avez fait d'économies avec cette réorganisation, puisque vous réfutez le terme de fermeture? Oui. Donc cette réorganisation aujourd'hui, oui, qu'est-ce que ça vous rapporte? Qu'est-ce que vous avez économisé à la fois sur les centres de santé sexuelle qui n'existent plus en tant que tels et les subventions en moins?
Alors, ils n'existent plus en tant que tels, mais sont toujours présents sur nos territoires. J'insiste vraiment sur ce fil. Nous ne nous sommes pas désengagés sur le sujet. Loin de là. Loin de là.
Il y a quand même un désengagement financier, puisque l'idée était de faire des économies.
Aujourd'hui, l'économie qui est faite, c'est à environ 160 000 euros.
Tout confondu.
Tout confondu.
Réorganisation tout des confondu. Centres de santé sexuelle tout et baisse des subventions allouées au planning familial.
Tout à fait.
L'opposition a chiffré ça, elle dit que grosso modo, ça représente 0,02% d'économie sur la totalité du budget. C'est un chiffre avec lequel vous pourriez être d'accord?
Oui, mais en fait, au final, il n'y a pas de petites économies. Aujourd'hui, il y a une gestion responsable, comme je vous l'ai dit. On fait des économies petites, mais c'est les petites économies qui vont faire qu'on s'en sortira, tout simplement. Et je martèle le fait, le département, et j'insiste, ne se désengage pas en matière de santé sexuelle. Des consultations existent sur tous les territoires. On n'en a délaissé aucun. On a des travailleurs sociaux formidables. La porte est toujours ouverte et on ne laissera jamais quelqu'un au bord de la route. Jamais.
Contactée pour évoquer ces fermetures, l'ancienne présidente du conseil départemental, Marie-Pierre Mouton, devenue sénatrice à l'automne dernier, confirme par mail les propos de Linda Adjari. Son entourage précise qu'elle ne souhaite plus s'exprimer publiquement sur le sujet. Son successeur à la tête du département, Franck Soulignac, nous fait savoir qu'il n'a pas non plus envie de prendre la parole. Au micro de nos confrères d'ici Drôme-Ardèche, il estime que ce dossier a été mal compris. Pour autant, pas question de changer de cap et de faire marche arrière.
Les hommes largués, on va les écouter. À la campagne, on est bien isolés. Il faut chercher de la proximité. La cité scolante, elle est limitée. C'est le CSS qu'elle va aller trouver. La, 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 la.
Dans la vallée de la Drôme, les éléments de langage, mais aussi les chiffres avancés par les élus de droite sont vivement contestés depuis des mois. Maude Rosenstiel est médecin généraliste à Die. Elle co-préside également la CPTS de ce territoire. Cette association regroupe les professionnels de santé du Diois saillant.
À Die, le nombre de consultations au centre de santé sexuelle dans un cadre de violence avait doublé l'année avant la fermeture. Celui pour médiation conjugale, autrement dit pour la prévention des violences, avait quadruplé. Ce qui se passe, c'est que on dit à ces personnes qui sont frappées, qui sont humiliées, violées, qui cherchent de l'aide, débrouillez-vous. Par ailleurs, si je me mets à avoir dans ma patientèle davantage de personnes qui relèvent du centre de santé sexuelle, j'ai mécaniquement beaucoup moins de temps pour des personnes qui venaient simplement pour la réévaluation de leur traitement pour l'hypertension artérielle. Bien entendu, depuis même l'annonce de la fermeture, il y a de nombreux mois, on a réfléchi à la possibilité de se positionner pour permettre
que le poste de conseillère conjugale soit maintenu, on pourrait le financer. Ça représente une part conséquente de notre budget, qui est bien moindre que celui du département, évidemment. Ça représente aussi une question en termes de place. Ce n'est pas notre place. Si on se substitue au pouvoir public, au rôle de l'État et des gens que nous avons élus, déjà on perd le sens politique des élections. Et puis on dévoie l'argent qu'on reçoit pour des soins qui devraient être acquis, qui devraient être en place. Je pense qu'on voulait aussi mettre Madame Adjari et Madame Mouton face à la responsabilité de leurs décisions.
Vous discutez avec elles ?
Nous avons eu l'occasion de rencontrer Madame Adjari ainsi que Madame Jourjon-Rennes, qui est administrative, deux fois. On imaginait un partenariat entre nos institutions. Ça n'a pas été suffisamment fructueux.
Ça n'a pas abouti pour l'instant.
Non. C'est un peu décourageant de devoir développer autant d'énergie pour simplement continuer à faire fonctionner quelque chose qui fonctionnait si bien. D'ailleurs, c'était la proposition qu'on avait faite au département quand on est allé les rencontrer, quand on allait rencontrer Madame Adjari. On lui a dit, écoutez, peut-être vous n'aviez pas remarqué, c'est normal que vous n'ayez pas une connaissance très fine du Diwan, nous sommes un territoire reculé, mais rendez-vous compte, nos chiffres sont de l'ordre d'une multiplication par 2 ou par 4 des consultations, les besoins sont certainement supérieurs. Non, vous n'allez pas fermer ce centre, vous allez le maintenir, et nous on vous propose même de financer du temps supplémentaire. Cette proposition a été balayée. Mais en réalité, le temps de centre de santé sexuelle dans le territoire d'Iwa, en tout cas pour ce que je peux en dire, il mérite d'être au moins maintenu à l'identique, à savoir 4 demi-journées par semaine, voire augmenté.
Alain Materon, président de la communauté de communes du Diwa, élu à Luz-la-Crotte. Alors c'est une très grande communauté de communes de 12 000 habitants, donc avec une très faible densité, 50 communes sur 1/5 du département de la Drôme, donc voilà une étendue essentiellement de montagne, des vallées et de montagne. Donc avec des placements qui ne sont pas toujours simples. Moi, je ne me bats jamais sur les chiffres. Simplement, je constate que sur mon territoire, c'est le vide aujourd'hui. Donc c'est une fermeture. Sur le territoire, c'est vécu comme une fermeture parce que c'est une fermeture. Il n'y a plus rien aujourd'hui.
Comment est-ce qu'on pallie ce vide ?
Il y a déjà des initiatives qui naissent aujourd'hui et qu'on regarde de près. Pour l'instant, ce qu'on souhaiterait, c'est au moins retrouver un lieu ouvert dans les créneaux qui existaient avant, c'est-à-dire 2 demi-journées par semaine. Il nous faudra des petits moyens, des locaux certes, mais aussi du fonctionnement, etc. Et puis il faudra de la coordination. Mais ce qui nous manquera, c'est quand même une professionnalisation. C'est-à-dire qu'on a des gens qui n'ont pas de médecin traitant encore sur le territoire. Donc trouver des médecins qui viennent faire du bénévolat, c'est un peu compliqué, quoi.
Vous êtes prêt à mettre combien sur la table, vous, ici, en tant que communauté de communes ? Est-ce que ça se chiffre, ça, déjà, ou pas ?
Non, on ne palliera pas le manque financier du département. On n'embauchera pas un médecin pour ça, on ne payera pas des heures et tout. Ce n'est pas possible.
Bonjour.
Conseillère départementale d'hiver gauche dans la vallée de la Drôme, Muriel Paret fait équipe avec Daniel Gilles. Les deux élus travaillent en binôme depuis longtemps. Ils plaident aujourd'hui pour une réouverture en zone rurale des centres de santé sexuelle. Ils affirment que cette revendication dépasse les clivages politiques traditionnels.
On constate que des territoires sur lesquels il y a des communes dont le bord politique est le même bord politique que la majorité départementale actuelle, s'organise à l'échelle des intercommunalités pour trouver des solutions.
Des centres de santé sexuelle alternatifs.
Ce serait une réouverture de centres de santé sexuelle, oui.
En cherchant des alternatives, comme celles sur lesquelles vous êtes en train de travailler et vous ne voulez pas en dire plus, si. Vous validez d'une certaine manière le choix de la majorité d'avoir supprimé ces centres.
Non. On ne valide pas la façon dont les choses se sont faites. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Pourquoi ça s'est fait de cette façon-là ? Et les chiffres qui ont été amenés, moi, pour avoir collecté tous les chiffres de tous les centres de santé sexuelle de la vallée et même des autres territoires ruraux, ceux qui ont été fermés, on a bien vu que les chiffres, ils étaient erronés et que là aussi, il y avait des choses qui n'étaient pas vraies. Et ça, c'est terrible.
Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de mesurer les conséquences de la fermeture de ces centres de santé sexuelle ? Ou est-ce que ça reste très empirique ?
On n'a pas de données suffisamment précises aujourd'hui, mais les conséquences risquent d'arriver plus tard. On sait juste qu'il y a de la souffrance et que des jeunes, par exemple, qui faisaient peut-être la démarche à ce moment-là, sont aussi dans des problématiques parfois de santé mentale, de problèmes de logement, de problèmes familiaux. Et les professionnels comme psychologues ou éducateurs de rue disent qu'on va se retrouver avec des jeunes qui seront dans une telle détresse qu'ils iront vers des actes qui seront peut-être le disparaître à un moment donné parce que c'est trop difficile à vivre.
Lily a aujourd'hui 19 ans. Comme Mathilde, elle aussi a accepté de témoigner sous un prénom d'emprunt. En juillet dernier, cette jeune femme qui vit dans un petit village de montagne aurait dû pousser la porte du centre de santé sexuelle le plus proche de chez elle. Sauf que ce lieu, géré par le département, a fermé pour économiser chaque semaine quelques demi-journées de consultations anonymes et gratuites.
Alors j'apprends par hasard, en plus je m'y attendais absolument pas. J'avais pris un test comme ça, sans me poser de questions, parce que j'avais 2 semaines de retard de mes règles. Un test de grossesse, c'est ça. Et puis, j'étais très, très, très étonnée quand j'ai vu le test. Évidemment, je savais que je ne pouvais pas en parler à ma famille. Ma mère n'habite pas avec nous, je ne la vois pas. Avec mon père, ça aurait été très compliqué. Et je savais très bien que ça allait casser notre relation. Donc je me suis dit, évidemment, j'en parle avec la personne qui est aussi concernée avec moi. Et cette personne-là, elle n'était pas du tout présente dès le début. Elle ne me dit rien en appel et j'ai dû mettre un coup de pression pour dire, écoute, soit tu viens avec moi, soit je viens te chercher là où tu travailles pour qu'on y aille quand même. Parce que moi, je n'ai pas de moyens de transport en plus. Je voulais aller en fait à l'hôpital du coup pour demander ce que je peux faire. Donc après beaucoup de temps où j'ai dû le convaincre, on est allés tous les deux. Moi, j'étais devant l'hôpital, je suis restée 2 minutes avant de rentrer. Lui, il est rentré, il a expliqué la situation. Ils ont dit, aujourd'hui, on ne peut rien faire pour vous. Demain, vous allez à... Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, l'OSI. Je ne sais même plus, mais c'était une association. Et ils ont dit, vous allez là-bas. Lui non plus ne se rappelait pas du bon nom. Donc moi, je n'avais pas la bonne association, il fallait que j'aille. Et puis, franchement, moi, j'étais terrorisée. Et j'avais quelqu'un en face qui n'était absolument pas là. Et là, à un moment, en fait, ça part en dispute et je lui dis, écoute, si tu veux pas être là, ne sois pas là. Et il est parti, je suis partie. Sauf que je me retrouvais au milieu de cette ville, du coup. Et pendant au moins 10-15 minutes, j'étais assise sur un rocher. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où aller, je ne savais absolument rien. Parce que même sur Internet, quand j'essayais de chercher, il y a des gens qui disent ci, d'autres qui disent ça. En fait, déjà que dans ta tête, ça va à droite, à gauche. Si toutes les réponses sont à droite, à gauche, t'arrives pas à te fixer un avis sûr, quoi. Et heureusement que j'avais une copine que j'avais pu prévenir plus tôt, qui a dit, je peux en parler à ma mère. Et après, ils sont arrivés me chercher. Et elle connaissait cette conseillère conjugale qui anciennement travaillait dans le centre de...
Qui a fermé.
Exactement. Et j'ai vraiment eu de la chance de pouvoir lui parler directement. Surtout avec elle, il n'y avait pas de jugement, je n'avais pas de pression. Et surtout, elle m'a expliqué qu'il y a 2 façons pour avorter. Donc on peut faire ça par médicamenteux,
une façon avec des médicaments.
Exactement. Ouais. Mmh. Et puis on a aussi l'opération. Mais vraiment lui parler, ça m'a... Parce que aussi, quand on ne connaît pas ce que c'est l'IVG, on peut s'imaginer des horreurs... Moi, je sais pas, j'imaginais dissecter le ventre, j'en sais rien, enfin, un truc fou même. Mais quand elle me l'a expliqué, c'était pas aussi effrayant que ce que j'aurais pu croire toute seule. Et puis, j'aurais pu ne pas vouloir aller vers une solution par peur de la solution. Et elle m'a éclairé qu'en plus, elle serait là et puis qu'il y aura du support, en fait. Que j'aurais pu ne pas avoir tout court si j'aurais pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui connaissait cette conseillère personnellement.
Après ces premiers rendez-vous avec la conseillère conjugale qui vous reçoit chez elle, qu'est-ce qui se passe ?
Donc on reste en contact par message. Et puis J'allais en fait à l'hôpital, j'avais déjà fait un premier rendez-vous à l'hôpital et j'allais retourner à l'hôpital et la veille, j'ai fait une fausse couche. Donc je n'ai pas eu besoin de passer par ce processus au final. N'empêche qu'elle m'a quand même consolée parce que ça reste quand même émotionnellement quelque chose de difficile. Et puis surtout que je savais que quelqu'un en face savait et comprend ce que je ressens. Donc rien que dans ça, on trouve une tranquillité.
C'était un brouillard, pas du genre romantique. Celui qui te tire vers le bas, celui qui te noie dans le noir. Je voulais juste un appel, une main qui se tend. Même si elle s'en allait au loin, qui se transformerait en cauchemar.
Delphine Béal, psychologue clinicienne à la mission locale auprès des 16-25 ans, des jeunes, sur toute la vallée de la Drôme. Donc je suis à mi-temps sur toute la vallée de la Drôme, sur l'antenne de Die, Cré et Livron-Loriol.
Quel était votre lien avec les centres de santé sexuelle? Comment est-ce que dans votre dispositif de prévention, dans votre travail, vous collaboriez avec ces centres de santé sexuelle le plus près aujourd'hui, là où on est par rapport à Cré, celui de Livron-Loriol, qui fonctionnait très bien et qui a fermé, comme six autres centres.
Auparavant, pendant plusieurs années, la conseillère conjugale et familiale du CSS de Livron-Loriol intervenait régulièrement sur des groupes, des ateliers de jeunes de la mission locale pour la prévention de la vie sexuelle et affective. Et puis, par la suite, on a mis en place de pouvoir aller pousser la porte avec un groupe de jeunes et rencontrer, la médecin gynécologue et la conseillère conjugale.
Ça servait à quoi, ces séances-là ?
Ça permettait, en fait, d'amorcer un lien de confiance. C'est des jeunes, nous, qui sont déscolarisés après les études, après l'école. Donc, il n'y a plus, en fait, de prévention autour de ces questions-là. Et en fait, oui, ça permet de savoir qu'il y a un lieu anonyme et gratuit qui peut être à l'écoute de toutes leurs problématiques de santé en allant des questions de contraception aux questions d'orientation sexuelle, aux questions de genre aussi. Et en fait, ça permettait beaucoup plus facilement ensuite pour eux l'accès à ces lieux-là.
Aujourd'hui, vous faites comment ?
On se débrouille, on bricole, on prend sur notre temps. Et effectivement, on essaye de bricoler, par exemple, d'appeler la collègue conseillère conjugale et familiale du centre de santé sexuelle de l'hôpital de Cré. Mais elle doit pallier à deux autres centres qui ont fermé, Die et Livron-Loriol. Elle ne peut pas... Voilà, et en plus, là, quand les jeunes, maintenant, appellent le centre médico-social dans lequel était le centre de santé sexuelle, ils tombent sur une plateforme téléphonique parce qu'il y a toute une réorganisation. Donc là encore, deuxième violence pour eux, parce que moi, je trouve que c'est violent, tout ça, de même plus avoir la personne de l'accueil qu'ils avaient pu rencontrer auparavant, même plus avoir quelqu'un qui s'adresse à eux directement. Voilà, il n'y a plus rien. Ma crainte, c'est que tout le travail d'accompagnement qui n'aura pas pu être fait auprès de jeunes qui seraient allés peut-être vers une IVG, s'il y avait eu encore les CSS, on va aller vers la protection de l'enfance. Il y a des jeunes mères qui pourront peut-être pas. Je vais loin, et c'est dur ce que je dis, mais il y a aussi cette réalité-là. La protection de l'enfance est déjà saturée, va déjà très mal. Le département, en fait, ils ont fait des choix.
Ça veut dire qu'on n'aura pas d'IVG, on aura des naissances, c'est ça, et qu'il faudra bien gérer... la vie de ses bébés,
oui,
à venir.
Et accompagner ses mères aussi. Voilà, donc les conséquences, elles risquent d'être sur le long terme. Le département, il va malheureusement devoir assumer ça aussi.
Vous pensez que ça va lui coûter beaucoup plus cher à un moment donné que les économies d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de 160 000 euros d'économies pour la fermeture de ces centres et la baisse des subventions. Ça représente 0,02% du budget total du département. Ça lui coûtera beaucoup plus cher à un moment donné?
Pour moi, c'est évident. Pour moi, c'est évident. Toutes les décisions-là qui vont dans le sens de faire des économies, elles sont sur du court terme. Rien n'est vraiment pensé dans l'impact que ça peut avoir au niveau psychologique sur les gens. Et c'est évident que les conséquences, elles vont être bien plus lourdes sur le long terme, financièrement. Et pas que, malheureusement.
Alors, je suis le docteur Barbier Grasso, Hélène. Je suis la présidente du Conseil de l'Ordre, élue depuis l'année dernière. Je suis par ailleurs médecin généraliste à Chabeuil, dans une petite ville à côté de Valence.
En avril 2025, au moment de la prise de décision de la fermeture des centres, vous redoutiez une fragilisation des dispositifs de santé et de protection susceptibles d'accroître les inégalités d'accès aux soins et aux droits fondamentaux. Vos craintes, vos inquiétudes d'avril 2025, elles se racontent au présent, 9 mois plus tard.
Moi, ce que j'ai constaté il n'y a pas très longtemps dans mon cabinet, je suis à un quart d'heure de Valence, j'avais des habitudes de fonctionnement avec une conseillère conjugale et familiale. C'était un accompagnement précieux, gratuit, que je choisissais pour certains patients et patientes qui avaient besoin de ce genre d'accompagnement et à qui la gratuité correspondait, permettait de leur apporter une aide précieuse. Aujourd'hui, je ne peux plus le faire de la même façon. Et puis, c'est un accompagnement qui est important, qui n'est pas un travail de psychothérapie classique. C'est un autre travail et qui est aussi important et nécessaire. Après, les chiffres, c'est toujours compliqué de commenter les chiffres. Quand on parle de petits centres sur des bassins de population peu denses, peut-être qu'effectivement, une consultation avec 3-4 passages par demi-journée, ça peut paraître peu.
Mais ça a le mérite d'exister.
Mais ça a le mérite d'exister quand il n'y a pas d'autres solutions ou quand il n'y a pas d'autres ressources. Et puis ça correspond à la densité du fonctionnement, de la densité d'une région. Enfin, quand c'est des régions de toute façon peu denses, on ne peut pas comparer les temps de consultation dans le Vercors et Valence, par exemple.
Présidente du Conseil de l'Ordre des médecins dans le département de la Drôme, Hélène Barbier-Grasso participe en novembre dernier à une table ronde organisée à Die. La santé sexuelle, un enjeu citoyen, peut-on lire sur le programme distribué par le collectif créé pour sauver les CSS dans la Drôme. La députée écologiste Marie Pochon fait partie, elle aussi, des intervenantes. À cette occasion, elle déplore qu'un certain nombre de professionnels et d'acteurs du monde associatif ne puissent pas s'exprimer ouvertement et publiquement par crainte de représailles de la part du conseil départemental.
Elle pourrait être importante dans les années à venir. Et enfin, quand même dire un mot de ça, mais le climat de pression, le climat de silenciation d'un certain nombre d'élus locaux, de soignants sur cette question-là, il est absolument inacceptable.
Plusieurs personnes contactées par nos soins ont en effet préféré s'abstenir de parler, redoutant, disent-elles, des sanctions directes et indirectes. Marie Pochon estime par ailleurs que le combat dans ce dossier des centres de santé sexuelle est aujourd'hui avant tout un combat politique.
Et qui font avancer les choses. Je vous remercie.
Merci Marie.
Je pars du principe que ce n'est pas une décision de rationalisation, une décision budgétaire. Et on sait également aujourd'hui qu'investir dans la prévention en matière de santé, en vérité, c'est plutôt des économies sur plein d'autres secteurs, etc.
C'est quoi pour vous alors la vraie raison ?
À mon sens, c'est plutôt une raison idéologique, politique, comme on le voit par ailleurs à l'échelle nationale, dans les débats qui peuvent y avoir sur la prévention en matière de santé sexuelle, sur l'éducation à la santé sexuelle, par exemple à l'école. Sur toutes ces questions-là, on voit des reculs, on voit un retour en arrière. Et c'est une question de posture, c'est-à-dire que c'est des sujets qui relèvent de l'intime, que ce serait à la famille, potentiellement, de transmettre des valeurs sur ce type de questions, et qu'il vaut mieux ne pas en parler. Parce que si on les aborde, c'est les faire exister. Or, ils existent dans la société. Et je crois que c'est ce à quoi participaient les centres de santé sexuelle, notamment sur nos territoires ruraux, là où les problématiques d'isolement, de problèmes de mobilité, etc., aggravent finalement des inégalités qui sont déjà présentes dans toute la société. Entre
et de précarité financière aussi pour un certain nombre de personnes.
Notamment dans le Divois. Effectivement,
puisque les centres de santé sexuelle, ils avaient aussi cet avantage d'être non seulement anonymes, mais gratuits.
Tout à fait. Sans rendez-vous, gratuit, anonyme. Aujourd'hui, c'est un service, finalement, auquel on n'a plus accès.
Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui face à ce vide dans le territoire? Même si le département dit « Ah mais non, mais pas du tout, on a réorganisé, on est présent partout, tout va bien ».
Moi, je ne crois pas effectivement à la possibilité de changer les choses au niveau du département jusqu'aux prochaines élections, puisque c'est l'orientation politique qui est portée, qui est défendue. Et de fait, c'est la majorité en place qui a décidé de ces politiques-là, d'investir plutôt dans les routes sublimes du Vercors que dans les centres de santé sexuelle. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est tenir bon, soutenir le réseau associatif, soutenir les collectivités qui veulent s'engager dans ce chemin-là pour pouvoir maintenir un minimum de filet social et de filet sanitaire, également pour toutes les personnes dans le besoin, et puis se bagarrer pour effectivement changer de cap à l'échelle du département. Et là, il y a des élections départementales qui s'annonceront, donc c'est encore c'est d'ici 2028, donc il faut attendre un petit peu. On a souvent tendance à se dire, les élections départementales, on n'y comprend pas grand-chose, mais je crois que c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que c'est un échelon éminemment politique et éminemment important, parce qu'en fait, le département, c'est le filet social pour toute la population. Et donc, c'est des investissements qui sont absolument essentiels. Et je crois qu'il y a des vrais choix politiques qui devront être discutés à l'occasion de ces élections à venir.
J'ai plus de mal à te donner un nom, parce que je sais qu'un jour, ce sera tout ce qu'il me restera de toi.
Un meilleur infini, une chanson écrite et interprétée par Lily, dont vous avez entendu le témoignage tout à l'heure. Cette chanson est une façon pour Lily de faire son deuil après sa fausse couche. Centre de santé sexuelle, la Drôme en état de manque, un reportage d'Olivier Denray avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
La sociologue Nathalie Bajos, directrice de recherche à l'INSERM, est avec nous pour commenter et prolonger ce reportage. Avant d'en venir aux questions d'actualité, on a pu avoir un aperçu dans le reportage d'Olivier des missions des centres de santé sexuelle. Elles sont finalement très étendues. Est-ce que vous pensez qu'elles sont trop mal connues, sous-évaluées ?
Je crois que ces centres de santé sexuelle, c'est vraiment un maillon essentiel de la mise en place d'une politique de santé sexuelle digne de ce nom, c'est-à-dire qui permette véritablement à toutes les personnes concernées, c'est-à-dire tout le monde, d'avoir recours à des conseils, à des moyens de prise en charge, à des orientations par des personnels formés. Que ces centres soient pas assez connus, c'est ce qu'on a pu montrer dans nos enquêtes. Effectivement, il y a encore peu de personnes qui ont accès suffisamment à ces centres au regard des besoins de la population. On reviendra dessus parce que ces besoins sont très nombreux. Et c'est vraiment un maillon essentiel d'une politique, et j'insiste là-dessus, surtout d'une politique de santé qui se donne pour objectif aussi de réduire les inégalités de santé qui sont beaucoup plus importantes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient récemment. Et si je peux me permettre de rebondir sur votre introduction tout à l'heure, s'il est vrai que nous n'avons pas de données qui permettent aujourd'hui, scientifiques j'entends, d'apprécier tout de suite l'impact de ce qu'on a entendu dans votre reportage sur la santé des personnes concernées, en revanche, on a quand même toute une série d'éléments qui permettent d'affirmer, d'un point de vue scientifique et de santé publique, que ces structures-là sont absolument indispensables.
Alors, vous travaillez de longue date, vous, justement, sur cette question des inégalités de santé. Pour réussir à les réduire, quelles sont les priorités, les piliers sur lesquels une politique de santé doit s'appuyer ?
Peut-être qu'avant de répondre à votre question, je voudrais quand même préciser qu'il se trouve qu'il y a des choses qui vont bien en France. La recherche va très mal, mais ce qui va bien, c'est la recherche en sexualité, en santé sexuelle. Et on a récemment réalisé une grande étude nationale, la troisième du genre en 2023, dont on a présenté récemment les premiers résultats. Et ces premiers résultats, ils montrent qu'il y a beaucoup d'évolutions, on pourrait faire toute une émission là-dessus. Mais en tout cas, ils montrent aussi beaucoup d'évolutions positives, mais ils nous alertent. Chercheurs, responsables politiques, responsables associatifs, tout un chacun, sur un certain nombre d'indicateurs qui sont des signes d'alerte par rapport à une certaine dégradation de l'état de santé sexuelle en France. Et ces signes d'alerte, je ne vais pas rentrer dans des chiffres, mais il y a un certain nombre d'indicateurs qui montrent que la pratique contraceptive a beaucoup évolué vers une moindre couverture contraceptive avec des inégalités sociales qui sont augmentées, qui nous alertent sur les difficultés que rencontrent certains groupes de population de femmes dans l'accès au recours à l'avortement, qui nous montrent que les IST, les infections sexuellement transmissibles, sont en hausse partout en Europe et en France, et notamment parmi les jeunes, que les violences sexuelles sont en augmentation très nette depuis les dernières enquêtes dans le contexte de MeToo, etc., etc. Enfin, que c'est un véritable problème de santé publique.
Et autant de sujets sur lesquels les conseillers conjugaux et familiaux...
Tous ces sujets de santé sexuelle, les clignotants sont au rouge. Les clignotants sont au rouge. Donc, c'est vraiment pas le moment, d'un point de vue de santé publique, d'aller toucher à un système dont on sait qu'il marche. Et j'ai envie de dire qu'il y a un principe de base en santé publique, qui a été démontré dans des tas de domaines de la santé publique, la santé sexuelle, beaucoup sur le sida, mais aussi sur d'autres questions de santé. C'est un principe tout simple qui consiste à dire que pour que des politiques de santé soient efficaces, il faut aller vers et faire avec. C'est une espèce d'adage simple, qui peut paraître évident, mais qui est rarement mis en place. C'est valable pour le Covid, c'est valable pour le sida, c'est valable pour les autres questions de santé sexuelle. Aller vers les populations concernées et faire avec. Et tout ce qu'on a entendu dans ce reportage, c'est des éléments, des témoignages de professionnels et de personnes concernées qui montrent à quel point ce que nous, on montre dans nos recherches, on le vérifie sur le terrain. Et en conséquence... Et c'est là que je reviens sur votre question sur les inégalités de santé. Une des façons les plus importantes, c'est que les politiques de santé soient conçues avec les personnes concernées et que les politiques de santé aillent vers les personnes concernées. Je vais prendre volontairement un exemple qui n'a rien à voir avec ce dont on parle pour que nos auditrices et nos auditeurs comprennent bien. La vaccination contre le Covid, ça suffisait pas de dire c'est accessible, c'est gratuit, etc. On a vu et on a montré dans nos enquêtes, il y a toute une frange de la population qui est restée à l'écart de ces dispositifs pour des raisons qu'on analyse, etc. Mais quand on a mis en place des systèmes de dispositifs qui allaient au plus près des personnes concernées, qui pouvaient entendre leurs enjeux, leurs questionnements, etc., là on a réussi à augmenter la couverture vaccinale. Pour la santé sexuelle, c'est pareil. Et c'est fermer, au-delà des enjeux idéologiques, et je ne suis pas là pour répondre à ces questions-là, mais d'un point de vue de santé publique, c'est une aberration. Parce que même s'il existe encore, et je ne parle même pas des questions, vous avez évoqué à plusieurs reprises, du budget, des économies que ça fait, mais c'est une aberration de santé publique que de fermer des centres qui sont animés par des personnes compétentes et formées, on l'a bien entendu avec l'intervention de la dame du planning familial, je crois 460 heures d'information.
480 heures.
J'étais pas très loin. Des heures de, on parle pas de sexualité, de santé sexuelle comme ça si on n'est pas formé, sinon on peut faire des ravages. Donc des centres qui sont au plus près des populations, qui sont pris en charge par des personnes compétentes, qui sont gratuites et anonymes. Alors évidemment, la dame ou le monsieur, parce que la santé sexuelle, ça concerne tout autant les hommes. Les personnes qui disposent de ressources sociales et financières extrêmement importantes et qui vivent en plein cœur de Valence et qui n'ont aucun problème financier, etc., etc., et qui vivent dans un couple égalitaire, vont ne pas du tout être impactées par ces fermetures. En revanche, les personnes qui sont plus dans les milieux ruraux, qui ont plus de difficultés dans l'accès à l'hôpital, parce que j'ai entendu dire que, d'accord, il reste 7 centres à l'hôpital, mais déjà, pouvoir aller à l'hôpital, on les connaît, les freins d'accès à l'hôpital. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, ça coche toutes les cases de ce qu'il faut pas faire, quoi. C'est, j'ai envie de dire, très malheureusement pour la santé sexuelle dans la Drôme, c'est vraiment l'exemple qu'on pourrait donner dans nos formations à l'université en santé publique. Voilà ce qu'il ne faut pas faire.
C'est exactement la question que je voulais vous poser. La Drôme, c'est le mauvais exemple à ne pas suivre.
Sur ce point-là, on est d'accord. Je connais pas du tout spécialement ce département, mais ce que j'ai entendu dans votre reportage, et pour ne rien vous cacher, au Conseil national du SIDA, qui va d'ailleurs bientôt devenir le Conseil national de la santé sexuelle, on est alerté sur ces questions-là. On a 28 membres qui sont aussi là pour nous remonter les enjeux de terrain. On est alerté, on a été alerté précisément sur cette question de fermeture de centres de santé sexuelle. À l'heure où on est en train de finaliser la stratégie nationale de santé sexuelle pour les prochaines années en France, et le Conseil va donner un avis sur cette stratégie, il est évident que nous allons être d'une extrême vigilance sur ce type de prise de décisions qui sont extrêmement récentes et qui sont tout à fait dommageables. Et oui, je pourrais utiliser cet argument pour mes cours. Enfin, d'ailleurs, je vais le faire. C'est vraiment La santé sexuelle, c'est un droit. C'est un droit fondamental. Je prends l'Organisation mondiale de la santé. Permettre aux personnes qui vivent sur un territoire de pouvoir exercer ce droit, c'est-à-dire de vivre une sexualité sans contrainte, à l'abri des risques, etc. C'est la contraception, c'est l'avortement, c'est les violences, c'est tout ce dont on a parlé. Et c'est surtout une approche globale. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé. C'est ce qui se fait partout. À l'international, il faut une approche globale qui puisse traiter de toutes ces questions et pas un endroit où vous allez parler des questions de violence et puis un autre endroit où vous allez parler de vos IST et puis un autre endroit de vos problèmes de contraception et d'avortement. Et donc, oui, de fait, ces centres de santé sexuelle, ils n'ont pas été créés pour rien. C'est parce qu'ils correspondent à des structures et des modes de fonctionnement dont on sait qu'ils sont efficaces. Donc, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que sans donner de chiffres précis, mais avec certitude que ces mesures-là vont accroître les inégalités sociales au sein des populations concernées et que le coût, évidemment, le coût va être... les conséquences de ces dispositions vont être bien supérieures au budget annoncé. On n'a même pas parlé de la prévention, mais j'en parle parce que c'est aussi, un enjeu absolument fondamental. C'est aussi un travail de fond qui est fait par ces centres de santé sexuelle. Et moi, je dirais, il n'y en a pas assez, il en faudrait partout sur le territoire. C'est de la prévention, et la prévention, c'est quand même la meilleure façon de permettre la diminution des risques dans le domaine de la santé sexuelle.
Vous parlez de prévention, une des missions des centres de santé sexuelle, c'était d'aller en direction, de rentrer dans les collèges, dans les lycées, de faire de cette prévention sexuelle et affective auprès des plus jeunes. Le département a notamment utilisé cet argument en disant « c'est pas notre mission et c'est pour ça qu'on se désengage, c'est à l'Éducation nationale de le faire ». Vous validez cette lecture-là ?
Alors écoutez, moi je suis pas politiste, je sais bien et j'entends bien que ces missions, elles sont que c'est l'Éducation nationale qui porte ce fameux programme EVARS, qui est un programme sur lequel le Conseil national du SIDA a d'ailleurs donné son avis, qui est un programme qui a des points qui vont pas comme tous les programmes, mais qui est un programme incroyable, formidable. C'est la première fois qu'en France, on se dote d'un véritable programme pour traiter de la question de la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et les personnes les mieux à même de faire cette éducation,
ce sont les
conseillères et les conseillers conjugaux. Et précisément, dans le département de la Drôme, on a des remontées qui nous montrent que dans un certain nombre d'établissements, voire dans beaucoup d'établissements, des conventions sont passées avec des entreprises privées qui proposent des formations clés en main. Il se trouve que ces formations, on est en train de nous les analyser au Conseil national du SIDA. Elles ne respectent pas l'esprit fondamental et les valeurs qui sont portées par ce programme, qui sont des valeurs d'égalité, d'égalité des sexualités, d'égalité des sexes, etc., etc. Alors, on n'a pas le temps de développer plus à fond. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un point qui interroge. C'est quand même les options qui sont prises sur les centres, la fermeture des centres. C'est dans le même département où l'éducation à la vie affective et sexuelle, pilier ô combien fondamental, est confié à des sociétés privées qui ne portent pas les valeurs qui sont au cœur de ces programmes. Donc il y a un véritable enjeu, et là on va vers une augmentation des inégalités sociales. Et la santé sexuelle, c'est tout le monde et c'est tous les jours. Les problèmes de sexualité, les problèmes de contraception.
Merci. Merci Nathalie Bajos. Le grand reportage de cette semaine, Centre de santé sexuelle, la Drôme en état de manque, était signé Olivier Denray. Réalisation Annie Bro, à la technique Marie-Claire Oumabadi, au web Caroline Beneteau. Documentation Christine Anzano et Véronique Le Faller.